Pourquoi sur les icônes, les visages ne sont-ils jamais souriants? Pourquoi ne voit-on jamais Jésus ou Marie sourire sur une icône? Pourquoi nos frères d'Orient, qui aiment tant représenter Jésus ressuscité, empoignés Adam et Ève pour les faire sortir du Sheol, ne dessinent-ils jamais un sourire sur ses lèvres? Cela vient du fait qu'un peintre d'icône ne distingue pas, comme nos artistes d'Occident, les mystères joyeux, douloureux et glorieux du rosaire. Quand un iconographe écrit, comme il dit, une icône de la nativité, ce n'est pas pour représenter la joyeuse naissance de l'enfant Dieu, le troisième mystère joyeux de notre rosaire. L'iconographe ne saurait oublier que Jésus, l'enfant qui vient de naître, c'est le Sauveur qui vient sur terre. Ce n'est donc pas un berceau qu'il dessine à l'entrée de la grotte, mais un autel, l'autel du sacrifice que Jésus va offrir à son Père en rémission de nos péchés. Les langes qui entourent son corps de bébé annoncent le linceul dans lequel il sera enseveli un jour. Et la grotte toute noire préfigure la tombe où on le déposera le soir du Vendredi Saint. Comment mettre un sourire sur les lèvres de Marie et de Jésus si l'on pense au drame qui attend l'enfant qui vient de naître? En revanche, si vous regardez la magnifique icône de Jésus en croix qui se trouvait dans la petite église de San Damiano à Assise et devant laquelle François a entendu Jésus lui dire « Va Francesco et rebâtis mon église qui est bien près d'être en ruine ». En regardant cette icône, devenue célèbre, vous ne découvrez aucun signe de souffrance sur le corps de Jésus ni sur son visage. Car il ne faut surtout pas oublier qu'aujourd'hui, ce corps de Jésus est vivant, ressuscité, glorieux à jamais. Et pour évoquer le sacrifice qu'il offre désormais pour nous dans le ciel, l'iconographe revêtira parfois le corps de Jésus en croix d'un grand habit sacerdotal, afin qu'on ne puisse pas oublier qu'il est à jamais le grand prêtre qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Le mystère douloureux de la passion du Christ ne doit pas nous faire oublier le mystère glorieux de sa résurrection. Autrement dit, toute icône doit évoquer l'ensemble du mystère chrétien et ne jamais nous faire perdre de vue que le Jésus que nous vénérons en nous inclinant devant son image, c'est un Jésus à jamais glorieux qui nous regarde personnellement. Car l'icône n'a pas pour but de nous représenter de façon réaliste une scène d'évangile qui s'est passée il y a 20 siècles, mais de nous aider à contempler le Christ vivant en train de nous regarder maintenant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit toujours les deux yeux d'un personnage, même s'il nous est présenté de profil. Car l'icône n'est jamais une scène à regarder, mais un visage posé sur nous avec un immense amour, et devant lequel nous finissons par baisser les yeux pour nous laisser regarder et transformer par ce regard. Il est donc impensable qu'un iconographe représente Marie portant avec fierté son enfant dans les bras, comme l'a fait l'artiste qui a sculpté au XIVe siècle la statue de Notre-Dame de Paris. Pour un chrétien d'Orient, cette Vierge souriante et heureuse est beaucoup trop humaine. La statue gothique risque de nous faire oublier que c'est le Fils de Dieu dans les bras de sa mère et qu'il vient sauver le monde par le sang de sa croix. Ne forçons quand même pas trop cette opposition. Nos artistes d'Occident savent parfois, dans une même œuvre, évoquer les différentes étapes du mystère de Jésus. En sculptant sa célèbre Pietà, Michel-Ange a déposé sur les genoux de Marie le corps magnifique de Jésus qui vient d'être torturé, mais qui est déjà splendide, comme s'il était déjà ressuscité. N'oublions pas enfin que la composition d'une icône se fait dans un grand climat de prière. C'est pour ressembler à Jésus que l'iconographe manie ses pinceaux. Quand il s'en sentira digne, il écrira l'icône de la Transfiguration, l'icône par excellence, car elle résume à elle seule toute sa spiritualité. En dessinant le corps de Jésus transfiguré, le peintre espère bien parvenir à lui ressembler. Chaque fois qu'il mettra une nouvelle petite touche blanche sur le manteau du transfiguré, il espère que Jésus le transfigurera à son tour, que son cœur deviendra blanc comme neige. À l'image de ce Jésus, devant lequel Pierre, Jacques et Jean étaient tombés en extase la nuit de la transfiguration.